Un tango, une danse, un baiser, et un sourire.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
La guerre est un étrange animal mutant qui se répand en tâtonnant dans de nouveaux territoires pour y trouver l'oxygène nécessaire à sa survie. L'Afrique avait de l'oxygène, c'est pour cela que s'y est installé froidement, lentement, ce monstre qui allait l'explorer en salissant tout, jusqu'à arriver à nos portes, jusqu'à la porte de ma maison. Lorsque la guerre arrive à la porte de la maison de votre narrateur, Carla Suarez, elle vient y sonner la fin de l'enfance, la fin des virées dans le bois, offert comme un petit monde. Cette guerre lui enlèvera son père et l'obligera à être le fils du héros. C'est le titre de votre roman, il est paru aux éditions Métayer. Bonsoir Carla Suarez.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là, on est installé au cœur de la fête du livre de Bron. On salue donc le public qui est avec nous et qui nous écoute.
Fidel, hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Che.
Quand mes parents s'embrassèrent pour la première fois, Cuba venait d'être expulsée de l'OEA, subissait l'embargo des États-Unis et commençait à se distinguer comme leader de ce qu'on appelait alors le tiers-monde. C'était la guerre froide. Un mois avant ce baiser à la Cinémathèque, Ernesto Che Guevara avait prononcé aux Nations Unies un discours, devenu très célèbre, où il proclamait que l'humanité criait « assez » et s'était mise en marche. Après quoi, il avait entrepris un long voyage, notamment en Afrique, où il avait rencontré des dirigeants de mouvements de libération de pays encore colonisés. Bien sûr, mes parents ne connaissaient pas personnellement Che Guevara, mais ils étaient déjà fiancés quand, à son retour de voyage, il avait déclaré qu'il quittait la politique cubaine pour se consacrer à la récolte de la canne à sucre. C'était l'année 1965. À partir de là, on aurait dit que la Terre l'avait avalé, le Che.
Carla Suarez, c'est un extrait de votre roman « Le fils du héros » et on commence avec cette archive de 1965, de cette lettre qu'adresse Che Guevara à Fidel, et une lettre assez définitive et en même temps empreinte de ferveur révolutionnaire, d'amitié, on imagine. Ça place quelque chose de très important dans votre roman, à savoir à la fois le Che, à savoir aussi la figure du héros. Est-ce que vous diriez que le héros qui est dans le titre de votre roman est directement lié au Che Guevara ?
Oui, et lié, oui, parce qu'il s'appelle Ernesto. Le personnage s'appelle Ernesto parce que le personnage est né dans l'année 69, comme moi. Et il y a beaucoup de gens qui sont nés après la mort de Che Guevara. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent maintenant Ernesto. Ce sont les noms qui ont devenu à la mode de l'époque. Et voilà, le père d'Ernesto, mon personnage, il essaye de un peu reconstruire les moments avant de sa naissance, quand ses parents se sont connus, comme ça, se sont rencontrés. Et c'était les années 60 à Cuba que c'était vraiment les ferveurs révolutionnaires et tout le monde. C'est la jeunesse à l'époque qui a laissé beaucoup de choses à faire pour construire un projet social, un nouveau pays et tout ça. Et ça, c'est les parents du personnage. Donc, pour comprendre beaucoup de choses qui se sont passées après à sa vie, le personnage doit comprendre d'où a commencé ça. Donc, c'est pour ça qu'il va derrière, avant de ses naissances.
Si on essayait de parler un petit peu justement de ce couple de parents d'Ernesto, vous diriez qu'ils ressemblent à quoi ? À quoi ressemble leur histoire d'amour dont on va voir qu'elle va s'arrêter, mais pas complètement, puisque la femme et la mère d'Ernesto va continuer à laisser une place ouverte à cet homme qui va mourir à la guerre. Comment s'aiment-ils ?
Je crois que c'est un couple très... On peut les trouver beaucoup de couples comme ça à Cuba, parce que ce sont des gens, comme je le disais avant, qui sont... C'est la mère d'Ernesto, c'est quelqu'un qui fait des choix dans sa vie. Quand elle est très jeune, elle peut se libérer de son père, qui était un contrôleur et tout. Elle commence à participer dans les pays, dans les processus, dans les choses qui se faisaient ces années-là. Après, elle connaît son père. Il partage beaucoup de choses, des idéaux politiques, des idéaux sociaux. Et après, quand son mari va mourir à la guerre d'Angola dans l'année 82, et elle va rester quelqu'un qui attend tout le temps. C'est parce que c'est en morte, le père d'Ernesto meurt dans les premiers chapitres du roman quand il a 12 ans. Et c'est vraiment, ça va couper complètement la famille. Et c'est une femme qui va construire, qu'elle devient, je sais pas comment c'est en français, voilà. Et avec deux enfants, il va agrandir ses enfants. Mais toute la famille, pour tout le monde, c'est une famille qui est un héros en famille. Et ça, c'est très important à Cuba. Les héros ont une dimension énorme à Cuba et surtout à cette époque-là. Donc, pour Ernesto, il va devenir le fils du héros, justement, parce qu'il doit être, pour tout le monde, il doit faire, je sais pas, des choses extraordinaires parce que son père, c'est un héros, mais son père est mort dans la guerre, donc il est un orphelin. Mais pour les autres, il est le fils du héros. Sa mère aussi, il va garder toujours les souvenirs de cet homme-là qu'il aimait beaucoup. Et il va passer toute sa vie à répondre aussi à ça que la société attend de la famille des héros. Donc c'est une figure de la mère, c'est une figure, pour moi, c'était très intéressant comme écrivain, parce que les protagonistes du roman, c'est un homme, mais j'ai mis toutes les femmes à côté, sa mère, sa grand-mère, sa sœur, qui sont des femmes très fortes et qui font un peu la guide, dans certains moments, d'Ernesto.
Et vous oubliez les femmes qu'il aime, parce que plus tard, au moment où on rencontre le personnage d'Ernesto, qui est le personnage principal, qui est le narrateur, bien sûr, on le rencontre alors que c'est un homme, qu'il a fait sa vie, qu'il a laissé Cuba derrière lui, et il a aimé des femmes, et il va aimer d'autres femmes, et ces femmes aussi, elles lui servent de guide. Je pense par exemple à Renata, qui est une femme avec qui il va vivre. On peut considérer que c'est une femme qui va lui permettre de prendre un virage extrêmement important dans sa vie. Donc en effet, vous faites parler le fils du héros, vous faites exister le héros de la guerre, et en même temps, vous ponctuez ce livre de femmes sans qui rien ne pourrait avoir lieu. Ça dit quelque chose, justement, de ce que vous-même avez connu ?
Parce que là, c'est le personnage d'Ernesto, c'est quelqu'un qui reste complètement bloqué à 12 ans, parce que c'est sa grand-mère d'abord qui lui dit « Bon, ton père est mort, maintenant tu es l'homme de la famille ». Il habite avec sa grand-mère, sa mère et sa petite sœur. Donc, il devient à 12 ans l'homme de la famille. Pour toute la famille, les pères avaient beaucoup de frères, tous des hommes. Et pour tous les oncles d'Ernesto, il devient, voilà, tu es un de nous, tu es maintenant un homme. Et pour toute la société, et lui, il devient vraiment, il a une responsabilité. Mais en même temps, il ne sait pas comment réagir avec ça, parce que pour lui, il est quelqu'un qui a 12 ans, c'est fini son enfance. Il est devenu quelque chose qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne comprend pas vraiment la guerre, pourquoi cette guerre, pourquoi son père est parti à la guerre, pourquoi il est mort dans cette guerre. Donc, c'est quelqu'un qui reste vraiment complètement bloqué toute sa vie. Et ce sont les femmes qui vont les guider. Sa femme, Renata, que vous disiez, Renata le disait qu'il était l'homme qui faisait rien, qu'il était vraiment bloqué, que ça, au début, c'est de la relation, c'est quelque chose de très sympa, non? Il s'amusait de ça. Après, ça devient un problématique de la couple. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait pas réagir. Parce que il est complètement bloqué. Il va grandir, bien sûr, il va devenir un homme, un professionnel et tout, mais il est toujours cet enfant qui a perdu son père. Et voilà, il trouve, il a sa sœur qui parfois lui dit, tu fais toutes les choses que tes femmes disent. C'est pas toi qui fais les choix. Mais il dit, mais il est comme ça, il peut pas faire d'autres manières.
Vous avez pris le soin de préciser tout à l'heure que vous aussi, vous étiez né en 1969 comme le héros Ernesto, c'est-à-dire qu'en 1965 et dans les années 60, vous n'étiez précisément pas né. Quels souvenirs et avec quelle matière vous avez travaillé pour écrire ce Cuba des années 60 que vous n'avez pas vécu ?
Oui, les souvenirs sont les histoires que racontent les parents, les gens les plus âgés. Et après, quand j'ai commencé à écrire les romans, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, la guerre, parce que moi, j'ai grandi avec la guerre, comme les personnages, sûrement que moi, j'ai pas les problèmes du père, j'ai pas perdu mon père dans la guerre. Mais j'ai grandi parce que la guerre a duré 15 ans. Les Cubains ont participé dans la guerre d'Angola pendant 15 ans. Donc, ma génération a grandi avec ça. Et c'était quelque chose que j'avais toujours, que je voulais comprendre mieux les choses, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre froide, la moitié des choses étaient secrètes. En plus, à Cuba, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes. On ne comprenait pas vraiment, même dans les terrains, les choses qui s'étaient passées. Les gens ne pouvaient pas comprendre et savoir exactement ce qui s'est passé dans le sud d'Angola, les gens qui étaient à la capitale, parce qu'il n'y avait pas les médecins techniques demandant des communications. Et en plus, il y avait les secrets de guerre. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses que je ne savais pas. Et quand j'ai commencé à travailler dans les romans, j'ai commencé à lire des choses. J'ai déménagé à Lisbonne, je vis à maintenant à Lisbonne. Et là, c'était très intéressant pour moi parce que j'ai trouvé des livres et des films et des choses qu'il y avait la guerre, mais dans un autre point de vue. Parce que moi, j'avais que le point de vue officiel de Cuba, que c'est les côtés héroïques, toutes les choses. Si on peut dire les bonnes choses de la guerre, la guerre n'est pas bonne chose, mais c'était tous les côtés officiels. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Et en train de travailler dans les romans, j'ai lu, j'ai regardé des choses, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai fait des interviews avec des Cubains des différents âges qui sont participés dans les différents moments de la guerre, et aussi avec des Portugais, des gens de l'Angola, de partout. Et ça me fait vraiment un moment donné, j'ai dit il faut que j'arrête de lire, de chercher d'informations, parce que sinon je vais finir pour faire un livre d'histoire, et c'est pas ça que je vais raconter l'histoire. Ça m'intéresse la grande histoire, comment la grande histoire peut entrer chez toi et changer vraiment la petite histoire, la vie des gens. Et c'est ça que c'est intéressant pour les romans. Donc, voilà, pour moi, je s'est fait vraiment 4 ans de recherche. Et après, quand j'ai fini les romans, la première version, j'ai coupé beaucoup de choses parce que j'avais mis beaucoup de choses que j'avais besoin, que je savais déjà, je voulais écrire, mais finalement, pour un roman, ça, c'était pas bien. Donc, j'ai coupé, je laissais que dans les romans, que les choses historiques, que les choses qui sont vraiment importantes pour la vie personnelle des personnages. Le reste, ça restait dehors.
Pour rester encore un instant sur le mot héros présent dans le titre, le fils du héros, et sur la notion d'héroïsme, alors on a commencé par entendre une archive qui a refait sonner la voix du Che. Est-ce qu'il y a aussi dans cette idée du fils du héros l'idée d'une construction d'une masculinité, de la place de l'homme dans ces familles cubaines, quelque chose qui, ensuite, lorsque votre personnage Ernesto va voyager et à Lisbonne et en Allemagne, va se trouver un peu caduque, va faire que lui, en tant qu'homme construit de cette manière-là à Cuba, il va avoir du mal à exister de la même façon en Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Pour moi, c'était clair au début du roman que j'avais l'idée que le personnage devait être un homme. Parce que aussi c'était une façon pour parler de ça que les significats, les gros significats que c'est être homme à Cuba, dans la région. C'est Cuba, c'est très machiste, et dans la région aussi c'est vraiment les hommes que dès que tu es petit, combien de fiancés tu as, c'est vraiment un culte à la masculinité. Et en plus, toute la révolution cubaine, les hommes forts qui sont allés à la montagne pour faire la guerre, les fusils, il y a toujours cette côté très très macho, très très forte, mais très forte dans la vie des femmes, mais dans la vie des hommes aussi. Et c'est pour ça que pour moi c'était, parce que c'est un côté que je jamais avais travaillé avant. J'avais toujours des protagonistes et des femmes. Et moi, je voulais me mettre dans l'autre côté et voir cet homme qui vraiment il est cassé, sur lui tombent des responsabilités énormes, et lui, il est quelqu'un, comme je dis, c'est bloqué, mais en même temps, il y a cet côté de l'homme de la maison. Parfois, c'est sa sœur qui les fait toucher la terre, parfois, parce que lui, il devient le père et les frères de sa sœur. Mais sa sœur parfois dit, mais écoute, moi j'avais un père, mon père est mort, mais toi tu es mon frère, attention, parce qu'il fait vraiment, et ça il fait parfois l'effet lourd à la famille, et c'est cette façon, non? Donc c'est le contraste entre quelqu'un qui souffre de voir être quelqu'un qui n'est pas lui, et en même temps il fait. Et ça, c'est pour ça que les personnages pour moi étaient intéressants. C'est de Mimi de l'autre côté et explorer d'autres choses, que des expériences que je n'ai pas.
Et surtout les Cubains. On en rencontre à Luanda, mais on en voit aussi sur le front. Ils sont officiellement instructeurs. Ils forment les hommes du MPLA, qui n'ont jamais été que des guérilleros, à la guerre moderne. Mais en attendant, ce sont eux qui pilotent, semble-t-il, les blindés soviétiques et qui entrent les premiers dans les villes. Et dans les zones conquises, on les trouve sanglés dans des uniformes impeccables, fumant de gros havanes et répondant en anglais à la question « Combien de Cubains se trouvent dans la région ?»
I don't know exactly, and it changes.
It changes.
But yeah. There would be a significant number. I mean, it would not be just a 20 or 30. No, a bit more than that.
Je ne sais pas exactement, ça varie. On lui demande donc combien, 20 ou 30. Non, répond-il, beaucoup plus.
C'est une archive de 1976, Carla Suarez, qui dit « Toute la difficulté à dire cette guerre, ou bien depuis Cuba, ou bien sur le sol angolais. » Dans l'archive, on entend un journaliste qui demande « Combien êtes-vous de soldats cubains ?» 20, 30, et un silence. Non, en fait, on est beaucoup plus. En fait, combien étaient-ils engagés dans cette guerre-là ? Que sait-on aujourd'hui de la manière dont Cuba a engagé ses hommes et ses soldats ?
Et officiellement, sont partis plus de 300 000. Cubains. Mais il y avait des gens de l'armée, les gens des services militaires, il y avait beaucoup de civils aussi, des médecins, des professeurs, des constructeurs. Mais c'est vrai qu'au début de la mission, les Cubains 75, et c'était complètement secret. Donc il y avait vraiment son parti, un groupe de troupes spéciales et tout, et c'était complètement secret. Les gens à Cuba l'ont connu après que la mission était finie. Et que Fidel Castro a parlé de ça, donc les gens comme ça, au niveau populaire, les gens ont compris que les Cubains étaient là. Et après, normalement, cette guerre, c'est vraiment très, c'était une guerre très compliquée parce que c'était avant l'indépendance. Il y avait l'année 75, il y avait l'indépendance de l'Angola, mais en Angola, il y avait trois groupes d'indépendantistes qui luttaient contre les Portugais et contre eux. Et c'était le moment de la guerre froide. C'est pour ça qu'il y a un personnage qui dit dans les romans que c'était vraiment la dernière grande guerre de la guerre froide. Parce que tous les trois groupes ont cherché des aides dans d'autres pays. Et là, il y avait la guerre dans les terrains, la guerre physique, et il y avait aussi la guerre de tous les pays qui aidaient d'autres groupes différents. Donc, il y avait l'Union soviétique, bien sûr, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo, la Chine, et Cuba a aidé un groupe avec les gens. Et normalement, avec l'armée, normalement, c'était une mission secrète, les débuts, et c'était une fois que l'indépendance était déjà déclarée, les Cubains ont commencé à partir. Mais à un moment donné, ça s'est fini. Et c'est là qu'il a, dans l'année 77, qui a commencé vraiment à être plus massif. Et là, que d'abord, c'était les militaires des troupes spéciales. Et après, ils ont commencé à aller de plus en plus, de plus en plus. Et c'est une chose que j'essayais de donner dans les romans, comment la guerre a commencé à être d'abord est partie d'un secret, à devenir, à avoir de plus d'espace dans notre vie. Les gens parlaient. Après, c'était un secret, mais que les gens parlaient. Et après, finalement, est devenu quelque chose de normal. Quand j'avais 17 ans, c'était tout le monde connaissait quelqu'un qui était parti à la guerre parce que c'était vraiment quelque chose de massif. Ils sont partis beaucoup et c'était plus un secret. Donc, c'était quand il y avait quelqu'un qui n'y avait pas, tu dis, ah, il est où? Ah, ben, il doit être en Angola parce qu'il n'est pas là. Et c'était, ils sont partis, même les jeunes du service militaire. J'ai des amis. Mon père est parti aussi à la guerre et j'ai des amis qui sont partis, des gens de mon âge quand il avait 17 ans. Donc c'était vraiment quelque chose de comment une guerre commence. C'est pour ça les premiers morceaux que vous avez lu, parce que c'est la guerre, c'est les monstres et comment on commence à grandir et après devient une chose normale. Et c'est très étrange et voir comme quelque chose de normal la guerre. Et on a vécu à, et c'est pour ça que dans les romans, c'est pas à Angola. Il y a qu'une petite scène à Angola. Mais le reste, c'est vraiment Ernesto essaye de reconstruire tout et parle de sa vie actuelle. Et c'est comme on a vécu vraiment en guerre, mais avec beaucoup de kilomètres de distance. Et ça m'intéressait, voir, regarder les conséquences de la guerre, comment on peut vivre ici et on peut souffrir les conséquences de quelque chose qui se passe très loin de nous, mais c'est en même temps, c'est normal, c'est notre vie quotidienne. Et ça me fait vraiment, comment on peut faire, commencer à voir normal quelque chose qui n'est pas du tout normal, parce que la guerre, ce n'est pas du tout normal.
Et en même temps, Carla Suarez, vous dites petit à petit, la guerre, qu'il s'agisse du roman ou de ce que vous avez vécu, prend les atours de quelque chose de normal, de votre vie quotidienne. Mais dans le roman, chacun des personnages dit qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est normal, c'est quotidien, petit à petit, voilà, beaucoup sont partis à la guerre. Mais c'est quelque chose d'abstrait, la guerre, comme quelque chose, on ne sait pas pourquoi les gens vont mourir, on ne sait pas comment ils vont mourir. Donc il y a une faute de sens, il y a une sorte de trou du sens qui s'installe quand même.
Oui, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des moments que c'était les moments plus chauds, donc il y avait, la presse parlait beaucoup comme ça. Mais après, il y avait des moments de plus calme, donc on parlait de toujours la coopération entre les deux pays, les gens qui partaient comme ça. Mais c'était comme ça. Ouais, parfois, on parlait beaucoup, parfois on parlait moins comme ça. Mais les gens connaissaient. Et c'est dans les romans, il y a tout le temps des grandes discussions. Tous les gens des différents, parce que c'est intéressant aussi comment la vision des gens a changé pendant les années, parce que c'est pas la même. J'ai parlé avec beaucoup de Cubains qui sont été dans la fin des années 70 et après dans les années 80. Il y a beaucoup, là les gens ont commencé vraiment à se poser beaucoup de questions, surtout à la fin de la guerre, pourquoi on est là, pourquoi on reste encore là. Ça c'est vraiment, ça dure beaucoup, et en plus il y avait des morts, il y avait des blessés, les gens qui, on retourne jamais de la guerre, normal, c'est pas normal une guerre. Donc il y a les gens qui, si tu n'as pas perdu quelqu'un, mais ça te reste dans ta tête. Moi, j'ai eu la conscience de la guerre quand j'avais 15 ans parce que mon père est parti. J'ai dit, mais quand même, une guerre, c'est. On parlait parce que. Mais une guerre, je dis ça dans le roman, la guerre, c'est un mot jusqu'au moment où tu es là. C'est là que ça devient une autre chose. Parce que d'abord, tu es là et tu dis, tu parles, mais c'est rien. Mais après, les gens commencent à retourner, les gens commencent à raconter les histoires, et tu vois les gens, les conséquences, les traumatiser et tout. Et ça, vraiment, ça fait que la société, quand même, a commencé vraiment à. Quand j'étais à l'université, par exemple, on faisait des discussions, c'était la fin des années 80, et il y avait des grandes discussions à l'université, des gens qui disaient, voilà, on doit rester, les gens qui disaient, mais pourquoi on est là? Mais vraiment, on sait toute la vérité, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment, c'est juste rester là, et donc on s'est posé beaucoup de questions, c'est pour ça que les romans ne donnent pas de réponses, parce que moi, je n'ai pas les réponses, mais moi, j'ai beaucoup de questions, et plus j'ai travaillé dans les romans, plus de questions j'ai eues, donc voilà, mais c'est la littérature, c'est comme ça.
Votre personnage Ernesto, il vit à Lisbonne. Il y a une rencontre qui est extrêmement importante pour lui, en dehors des femmes dont on parlait tout à l'heure, qui sont comme des personnes qui lui font prendre conscience des endroits où il se trouve, des questions qu'il se pose. Il y a cet homme du café, Berto, qui va lui ouvrir les portes vers de très grandes et profondes découvertes. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, Carla Suarez, une personne ou un livre qui a fait que d'un seul coup, vous avez compris quelque chose, les choses se sont éclairées différemment?
Non, mais c'est pour moi, c'était pas, il n'y a pas qu'une chose. C'était beaucoup de rencontres. Particulièrement, j'ai eu une rencontre par hasard à Lisbonne d'un Cubain qui m'a beaucoup aidé. Je connaissais pas, mais j'étais à cette époque-là, quand je travaillais dans les romans, j'étais comme Ernesto. J'ai regardé Angola, l'Afrique. J'étais vraiment, quand on travaille dans un roman, on voit
tout
que
fait
ça.
Signe.
Et là, j'ai trouvé une fois par hasard, comme ça, j'ai parlé à la sortie du cinéma, j'ai parlé avec mon compagnon. Et il y a un homme qui m'a dit, mais vous êtes cubaine, parce que je vous ai entendu parler. Et alors il m'a dit, oui, moi aussi, on en parlait un peu. Il m'a dit, voilà, vous habitez ici? Il m'a dit, oui, parce que j'étais en Angola. Et alors j'ai dit, ah, il faut qu'on parle. Parce qu'en plus, il avait été, pendant la période qui était mon personnage, le père d'Ernesto. Et pour moi, c'était très intéressant, ça. Donc il m'a raconté beaucoup de choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui, je crois qu'à partir de cette conversation, j'ai commencé à diriger ou à savoir des choses, à résoudre des problèmes de la fiction. Parce que dans toutes les choses que la famille, Ernest, tout ça, les personnages sont des fictions. Mais j'avais besoin de... Je savais quelque chose de très important qui s'est passé dans les romans, mais je ne savais pas comment s'est passé ça. Donc c'est grâce à cet homme-là, à mon père aussi, qui m'a expliqué des choses, à d'autres qui m'ont fait des petits... C'est un moment qu'on dit « clac », il dit « voilà, j'ai trouvé la solution ». Et donc vraiment c'est pour ça que j'ai dit, je me suis arrêtée à un moment donné, parce que j'ai dit, si je continue à lire ou raconter des gens, je sais pas, je vais écrire un roman de 1000 pages, je sais pas, mais c'est pas ça que je voulais. Par le temps qui court, Marie Richeux.
L'histoire même de la Madeleine, quoi, ce truc apparemment c'est complètement con et simple, mais l'écriture de la réminiscence chez Proust, c'est dans la cour de Guermantes, avec le bruit de la fourchette sur le verre, les serviettes empesées, et puis cette pris les pieds dans le pavé. Et la Madeleine, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait il écrit ça juste après la mort de sa mère. C'est pas du tout associé à Combray, mais c'est associé à la mère qui lui apporte une tasse de tisane. En fait, c'est presque dans le livre, comme si revenir à un moment où la mère est vivante.
Qu'on emmène cérémonieusement embrasser sa vieille tante dans sa chambre le soir, à un moment donc le crépuscule arrive, il y a les escaliers à monter, il y a la force de l'habitude, il y a le moment où on dit il faut y aller, on y va, et puis il y a cette odeur de renfermé qu'il y a dans la chambre avec la tisane ou le thé. Et la Madeleine qu'elle lui fait goûter après l'avoir trempée dans le thé. Et donc, qu'est-ce qui peut, dans tout cet ensemble émotionnel, le plus frapper un enfant et qui est le plus à sa portée, c'est ce qu'on lui donne à goûter. Et c'est la raison pour laquelle c'est la Madeleine qui va ensuite être le support mémoriel pour Proust. Mais s'il n'y avait pas eu la Madeleine à goûter, s'il y avait eu l'odeur de renfermé, l'odeur du corps de la grand-tante, qui est une odeur toujours un peu particulière chez les vieilles personnes, ou simplement le grincement d'une marche particulière de l'escalier, aurait peut-être pu prendre la place de la Madeleine. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parfois, les souvenirs sont comme des morceaux de pain trempés dans le lait. Ils se défont, mais pas en mie, plutôt en boue informe qui font plof, plof en tombant dans le liquide. C'est ce que j'ai dit un jour à Renata, qui m'a regardée avec cette mine qu'elle faisait quand mes propos ne lui paraissaient ni originaux ni sympathiques. « Plof, plof », répéta-t-elle. J'acquiesçais de la tête. Elle hocha la sienne de gauche à droite en faisant la grimace et quittait la pièce. Les souvenirs. Plof. Plof. Plof, fragments de vie quotidienne qui ne deviennent importants que lorsqu'on découvre qu'ils ne sont plus là. Plof. Plof. Ce fut un temps court et long. Si on pouvait graver chaque jour de notre existence, le mot « mémoire » n'aurait quasiment plus de sens. Si on pouvait graver chaque jour de notre existence, on n'oserait peut-être pas la revoir, on ne voudrait pas. Il vaut mieux que la mémoire reste cette chose étrange qui accable et qui obsède. Carla Suarez, c'est un extrait du Fils du héros, votre roman, paru aux éditions Métayer. Et juste avant, on entendait deux voix, celle de Françoise Héritier et celle de François Bon, évoquer l'épisode de la Madeleine chez Proust et le mécanisme par lequel tout lui revient, et l'écriture de la réminiscence et de la mémoire de l'enfance et du reste revient avec le goût. Évidemment, lorsqu'on lit sous votre plume que les souvenirs sont comme des petits bouts de pain qui tombent et qui sont trempés dans le lait, c'est difficile de ne pas faire le lien. Est-ce qu'on a raison ?
Oui, parce que c'est vraiment les souvenirs, on ne sait pas quoi va faire cloque, déclencher les souvenirs. Et c'est en fait, c'est la Madeleine, c'est un odeur, un saveur, quelque chose de... Il y a même des choses qui parfois ne sont pas très sympas, ne sont pas bonnes, mais on goûte ça et on dit, on retourne, c'est incroyable. Et là, c'est dans ces cas pour Ernesto, voilà, c'est ça, parce que c'est les pains fait comme ça et ça tombe, mais pas rapidement, c'est fait plof, c'est comme les souvenirs, c'est quelque chose de, que ça tombe doucement et pendant que ça tombe, tu reviens, tu revois des choses, non? Et c'est tous les romans, c'est vraiment, c'est un roman sur les souvenirs parce que Ernesto voyage pendant tous les romans, c'est un voyage, il est dans un avion, il écoute de la musique, de différentes musiques, et c'est à partir de cette musique qu'il va tomber, il va récupérer un souvenir. Il va reconstruire toute sa vie, son enfance, et son présent, parce que c'est très important pour lui, les moments actuels, mais surtout son enfance, que quand les moments où son père était là, et les moments où son père n'était pas là. Et c'est très étrange, parce que les souvenirs de l'enfance sont toujours très longs. L'enfance est très courte. Mais on a des longs souvenirs de l'enfance, comme si on a vécu, je ne sais pas, 50 ans de petit, mais on a vécu, on reconstruit les souvenirs à partir des histoires de nos parents. Ma mère me dit, ah, quand tu avais 4 ans, et moi je récupère ça, incorpore ça comme un souvenir, mais c'est pas, mais je ne me souviens pas. C'est vraiment, c'est l'histoire que quelqu'un t'a racontée. Et Ernesto essaye tout le temps, il a vécu vraiment très peu de temps avec son père. Il a très peu de souvenirs, de vrais souvenirs, mais il essaye tout le temps de reconstruire son père parce qu'il a perdu. Et si tu perds la mémoire, tu es rien, tu perds tout. Ça, c'est très important pour lui. C'est pour ça qu'il fait après peut-être un portrait idéalisé complètement de son père. Et pour lui, son père, c'était le meilleur père, comme pour tout le monde. Mon père, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. Et pour lui, c'était surtout parce qu'il a perdu. Donc, à un moment donné, il n'était plus là. Il se souvient de la première conversation qu'ils ont eue quand il partait à la campagne à travailler pour l'école. Il se souvient de la dernière fois qu'elle a vu sa mère et son père en train de danser à musique romantique. Donc, pour lui, ça reste son... Et c'est pour ça qu'après, il a beaucoup de problèmes à construire ses relations, parce que pour lui, l'idéal des relations, c'est sa mère et son père, les derniers jours qu'ils ont dansé ensemble. Peut-être que c'est la seule fois qu'ils ont dansé dans sa vie. Mais pour lui, c'est l'amour. Et c'est les souvenirs qui les tient vraiment à Ernesto. Le problème, là, alors, c'est qu'il vit que dans les souvenirs. Et ça, c'est son problème, qu'il regarde toujours. C'est le problème que tous les personnages à côté les disent toujours. Il vit en train de regarder tout le temps le passé, reconstruire le passé. Et c'est bien. Et ne pas oublier le passé et le reconstruire, mais ça sert pour construire le futur. Et Ernesto ne marche pas en avant. Il ne construit pas son futur. Il reste vraiment bloqué dans tous ces plofs.
Il y a un de ces plofs, justement, qui est un souvenir d'enfance extrêmement important pour Ernesto. C'est le petit bois dans lequel il va jouer avec ses camarades, filles et garçons, et qui prend des atours de forêts mystiques, des forêts de contes presque, dans la mémoire de Ernesto. Il a quoi comme valeur pour vous, en tant qu'écrivain, Carla Suarez, de cet endroit de l'enfance d'Ernesto?
Ça, c'est spécial, parce que ça, vraiment, c'est mon père qui m'a amené avec mes copains quand on était petits. C'est la scène c'est la première scène du roman, c'est le père qui a amené les enfants et ses enfants et les enfants du quartier là à jouer dans les bois de la Havane. Et c'était mon père qui faisait ça, donc il nous a amené, nous, et on faisait vraiment l'aventure. Et pour moi, les bois de la Havane, c'est très joli, et c'est vraiment l'endroit, c'est les bois de la Havane, c'est une chose étrange. Et c'est là qu'on filmait toutes les choses qu'on a vues quand on était petit. Et en fait, avec cette roman, ça m'est arrivé déjà des choses très jolies des lecteurs cubains de mon âge, et les gens qui disent, ah, tu vois, tu m'as, moi, j'ai vu ça, et j'ai vu toutes les choses de la télévision qui ont regardé, les contes de Montecristo, le capitaine de Tempête, toutes les choses qu'on a vues avec les acteurs, les comédiens cubains. Mais toutes les filmations, c'était là. Donc, pour nous, les voies de la Havane, c'est tout. C'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est toutes les époques, parce que toutes les aventures, les choses qu'on regardait à la télévision, il y avait besoin d'un bois, c'était voilà, c'est là. Donc, pour moi et pour tous les gens de ma génération, ça, c'est spécial. Et pour moi, particulièrement, parce que mon père nous faisait jouer là, nous amenait là, et on pouvait courir et rêver. Il y a la fleuve là, petit, et c'était, à l'époque, c'était vraiment très, très sale, mais c'était joli quand même. C'était un endroit de rêve. Pour moi, c'est particulièrement important, et donc voilà, j'ai donné ça à Ernesto.
Non, d'ailleurs, en vous écoutant, on comprend pourquoi le bois et cette forêt de l'enfance dans votre votre roman, c'est aussi la porte vers l'imaginaire. Ce n'est pas que l'aventure, les jeux et allez-y les gamins, vous pouvez courir pendant l'après-midi. C'est aussi, on a l'impression, une espèce de zone mentale où c'est possible d'entrer dans la fiction. Est-ce que oui, vous diriez que c'est ça?
Parce que là, il y avait tous les personnages et la fiction dans les livres. Il y a les copains, les grands, les copains, les plus, les frères, les presque frères, parce que c'est son ami, c'est plus fort de l'enfance, et il l'appelle Henri de Lagardère, parce que c'était le personnage, et c'était quelque chose qu'il regardait à la télévision quand il était petit, donc pour lui, ça reste toujours Henri de Lagardère. Et l'autre, la fille, ça reste le capitaine Tempête, je ne sais pas en français comment on dit exactement, mais c'était une chose qu'on regardait. Donc pour nous, c'était tous les personnages qu'il était dans les livres, il vivait, il était en trois dimensions dans les bois de la Havane, et c'est là qu'il habite, c'est là où les rêves, notre rêve habite. Et c'est pour ça que je crois que c'est aussi magique, les bois de la Havane.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était vraiment un roman sur la réminiscence, sur les souvenirs, sur la manière dont on va dans le passé pour à la fois s'en emparer, parfois le réparer. Comment avez-vous circulé dans cette temporalité-là, Carla Suarez, pendant l'écriture? Est-ce que les choses se sont mises dans un ordre particulier? Est-ce que vous avez laissé revenir presque les souvenirs d'Ernesto avec le même hasard qu'ils lui reviennent à lui dans la fiction?
Non, mais là, c'est la construction, c'est une autre chose, c'est plus compliqué, parce que d'abord, je commençais à écrire. Surtout, quand je commence un roman, je ne connais pas les personnages, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses. J'entends la voix du personnage, mais je connaissais quelque chose de la famille, mais pas trop. Donc, j'écris beaucoup au début des scènes, des choses qui ne sont plus dans les romans. Après, je les élimine. Mais j'écris toujours 50 pages, et après, ça devient 5 ou 10 pages. Mais pour moi, c'est important pour connaître les personnages. Donc là, j'ai mis des choses, des souvenirs. Et je me suis mis, comme on a la même enfance, parce qu'on est de la même année, il y a des jeux, j'ai décrit quelques jeux d'enfance dans les romans.
Le jeu de la Chapka, par exemple.
Ouais. Mais j'écris beaucoup plus de jeux. Mais finalement, j'ai laissé deux choses importantes comme ça. Écrire, c'est un exercice de mémoire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne se rappelle pas vraiment. Mais si tu t'es mis là, alors je me suis mis à écouter les chansons qu'on écoutait à l'époque. Et ça, c'est la musique, c'est magnifique. C'est pour ça que les personnages... Moi, j'ai beaucoup de musique dans tous mes romans. Pour moi, c'est très important, la musique. Et dans tous les romans, Ernesto, il est avec les casquettes en train d'écouter la musique. Parce que tu écoutes une musique, tu fermes les yeux et tu commences à regarder des choses que peut-être tu ne te rappelles pas que tu t'es rappelé. Voilà, ce sont des choses qui sont vraiment à l'intérieur de tes souvenirs. Et c'est une musique qui les fait sortir. Donc, pour moi, pendant l'écriture, j'écoutais beaucoup de musique. C'est bien qu'on a YouTube, donc j'ai vu beaucoup de films et des choses, des chanteurs qui étaient connus, parce que des chanteurs africains qui étaient connus à l'époque, là, qui maintenant peut-être ne sont pas connus ou ils ne sont pas déjà là. Mais pour moi, ça, j'ai regardé ça, j'ai retourné à mes 10 ans, 12 ans, et toute cette période-là, que c'était importante pour construire la fiction d'Ernesto. Et c'était vraiment... C'était super, parce que quand on écrit, on revit des choses. Et voilà, ça, c'est bien. C'est l'aventure de vivre.
Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ningekuoa Oh,
Il y a peu de choses que nous amenons au lit. Et parmi ces choses-là sont les livres. La langue française nous parle de jouir de la lecture. Ce n'est pas un hasard l'emploi de ce mot. J'ai toujours senti cet amour, cette passion charnelle pour la lecture. Je sais que aujourd'hui, avec la technologie électronique, il y a des lecteurs du virtuel qui ressentent la même chose. Je suis sûr que les lecteurs des tablettes d'argile ressentaient cela quand ils tenaient l'argile dans leurs mains. Pour moi, c'est le papier, c'est les mots imprimés, c'est l'odeur de l'encre. Vous savez, je me souviens encore de mes premiers livres de poche. Il y avait en Argentine une librairie française. Je me souviens d'avoir acheté des livres de poche et l'odeur particulière de ces livres de poche que je ne pus reconnaître que longtemps après. C'est l'odeur du pain grillé avec une beurre de noisette. Toute bibliothèque est le reflet de son lecteur ou de ses lecteurs. Et comme ça, la bibliothèque devient une autobiographie, une forme d'identité choisie pour ses lecteurs. Elle représente aussi la mémoire cachée sur les étagères, et elle s'offre comme expérience à ceux qui n'ont pas eu cette expérience. Parce que vous pouvez être sûr que sur les étagères d'une bibliothèque, il y a un texte qui donne deux mots à n'importe quelle expérience que vous pouvez avoir. Et donc, si vous pensez que la mort vous attend, vous pouvez en être sûr, il y a des textes qui raconteront votre mort et qui vous donneront deux mots au dernier souffle.
C'est très fort, les mots d'Alberto Mengel au micro de Christophe Onodibio sur France Culture en 2017, car la soirée, on est toujours avec vous à la fête du livre de Bron. Lorsqu'on entend Alberto Mengel dire beaucoup de choses, mais l'idée selon laquelle les livres et la lecture permet de choisir son identité, permet de se choisir soi-même. C'est un peu ce que vit quand même Ernesto, et peut-être en miroir la force que la lecture a dans votre propre écriture et dans votre propre parcours.
Oui, mais ça c'est très joli, que ça qu'il dit, que la bibliothèque c'est une autobiographie, vraiment, parce que là on a nos vies. Pour moi c'est fondamental les livres, et moi, ma mère c'était prof de littérature quand j'étais petite, donc je grandis avec les livres et c'était la normalité chez moi, et j'adorais inventer les histoires et tout ça. Et Ernest aussi c'est quelqu'un qui, quand il est petit, il adore lire, et quand ses parents vont découvrir qu'il aime lire les livres, alors il achète beaucoup de livres comme ça, et il fait les collections de livres. Et il rêve toujours d'écrire, il commence à écrire quand il est jeune comme ça, mais finalement il fait pas ça parce que son père est mort, et son père était ingénieur, donc il fait ingénieur comme son père, parce qu'il suit la vie de son père que tout le monde attend de lui. Mais pour lui, la lecture et la littérature va rester vraiment sa formation, sa vie. Et c'est pour ça que dans les chapitres, il y a les titres des grands romans. Il dit que j'ai lu vraiment beaucoup, et pour moi, ça va être suffisant et construire un discours à partir des titres des livres. Et il fait les discours pendant les romans, il fait un grand discours à sa future femme, et avec des titres des romans, et vraiment c'est un discours complètement cohérent, et tu sais, c'est dit beaucoup de choses, parce que sont les titres, et après c'est toute l'histoire qu'il a derrière les titres, donc vraiment c'est un discours énorme. Et là je fais le même jeu d'Ernesto, et tous les chapitres du roman en titre d'un grand roman, qui sont des romans de formation, des titres des auteurs que j'adore, que je lis. Plusieurs, je les lis quand j'étais très jeune. Et sont les romans qui est en train de lire aussi Ernesto pendant les romans. Ou des romans qui ont quelques petites relations avec quelque chose qui se passe dans les chapitres. Et c'est toujours, c'est le jeu littéraire. Il y a toujours un grand hommage à la littérature, que c'est ma passion.
Est-ce que vous diriez que finalement, comme ces rencontres humaines, que sont les femmes, que sont cet ami ou cet homme qu'il rencontre dans un café et qui l'aide à avancer dans sa quête de l'histoire, dans sa quête identitaire, est-ce que les livres ont aussi une fonction de formation pour lui, de pivot? On peut quand même lire, je sais pas, les titres des romans, c'est quand même Dante, c'est quand même Henry James, Paul Féval, Emilio Salgari, Wells, Roy Bastos, Kafka, Dostoïevski, etc., etc. C'est que ce sont vraiment des textes extrêmement puissants. Est-ce qu'il les façonne?
Eh ben oui, ce sont les textes qui c'est sa formation. C'est ça qu'il lit pour se former. Et il y a beaucoup de livres aussi qui sont, il y a Cabrera Infante, par exemple, que c'est très important. C'est un auteur qu'il n'avait pas lu parce qu'il n'était pas publié à Cuba. Donc, ça dit quelque chose aussi dans l'histoire. Et pour lui, il fait pas, il est toujours accompagné avec un livre. Et aussi, c'est l'importance de raconter des histoires. Parce que même les discours de la guerre, la version de la guerre, c'est aussi une histoire que quelqu'un nous a racontée, parce qu'on ne sait pas vraiment la vérité de l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire que quelqu'un que nous a racontée, mais l'histoire, c'est lui qui vend l'histoire, et les plus forts sont celui qui écrit l'histoire. Donc même les discours de ça qui s'est passé à la guerre, c'est une grande histoire de fiction, on ne sait pas. Où finit la fiction et on commence la vérité, ou où finit la vérité et on commence la fiction. Donc il y a tous ces jeux que pour Ernesto il vit dans l'histoire, dans toutes ces fictions, des livres qu'il lit comme ça, et toute l'histoire qu'il veut connaître de la vérité, vérité réelle si on peut dire ça.
Il y a une quête très très forte de la vérité, il suit des indices, il suit son intuition, et là aussi il y a quelque chose de très puissant avec les mots, pas du côté de la littérature, mais avec les mots qui sont dits. Et il y a une phrase que lui disait beaucoup son père, qui est « quoi que l'on vive, il nous reste toujours l'avenir ». Il me semble que cette phrase-là, Carla Suarez, elle est une sorte de fil rouge, évidemment, de votre roman Le Fils du Héros. Mais elle dit aussi, j'ai l'impression, une manière de se mettre en mouvement, d'être en rapport avec le présent, avec l'avenir. Est-ce que c'est aussi en rapport avec ce qu'a traversé Cuba? C'est-à-dire pas seulement à l'échelle individuelle de Ernesto et des personnages, mais aussi l'idée d'un pays.
Oui, j'espère. C'est il y a dans les romans finis dans le moment actuel, et bon, il y a 200, et il parle aussi de toute l'évolution de Cuba, et il parle de l'avenir. On pense à l'avenir, on sait pas, moi je sais pas quel sera l'avenir, mais c'est quelque chose qu'il a appris son père. C'est les phrases qu'il répétait son père. Il y a deux phrases qu'il répétait son père, qu'il apprend Ernesto, et que c'est très important de comprendre ces phrases, mais pour vivre ces phrases. Pas pour s'arrêter, c'est les mêmes relations avec Cuba. Cuba a fait tout un parcours historique comme ça. On doit comprendre notre histoire, mais vraiment ça qui s'est passé tout le temps. Et on doit pas oublier ça qui s'est passé. On continue avant. Non, il faut incorporer et comprendre et discuter et parler de ça qui s'est passé avant pour construire nos futurs. C'est pour ça que c'est, je crois, le discours de la guerre. C'est une chose qui s'est finie en 91. Ils sont passés beaucoup d'années déjà. Il y a beaucoup de jeunes à Cuba que peut-être ils connaissent pas vraiment cette histoire, et ils ont entendu parler, mais c'est pas important. Mais je crois que c'est important de retourner toujours et pas oublier l'histoire, surtout l'histoire récente. Parce qu'on est maintenant la conséquence de ça qu'on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Donc il faut tout garder. Pas oublier rien, mais pour construire le futur, l'avenir.
La historia y la realidad son las fuentes de donde.
Ma littérature puise ses sources dans l'histoire et la réalité.
Pero creo que el origen está.
Je pense que l'origine est dans la réalité que nous vivons à Cuba.
Yo soy un escritor cubano que escribe sobre Cuba.
Je suis un écrivain cubain qui écrit sur Cuba.
Una perspectiva universal.
J'essaie d'avoir un point de vue universel sur les phénomènes.
Porque si me centro solamente en contar.
Parce que si je me concentre seulement sur une perspective très proche de la vie quotidienne cubaine, j'écrirai une littérature très locale. Alors, j'essaie de m'ouvrir à une vision plus large. D'abord, avec des personnages qui représentent des thèmes de la condition humaine. Ensuite, avec des situations dans l'histoire où ils sont présents. Il y a des événements que nous vivons quotidiennement, que beaucoup de générations avant nous ont déjà vécu, depuis le début du monde et de la civilisation. Ça m'aide quelque part à utiliser l'histoire comme un miroir pour le présent, ou pour confirmer que ces événements sont une reformulation de quelque chose qui a déjà été vécu antérieurement. Et ma littérature vient de ces sources. Je me demande quelles images passent dans la tête de tous ceux qui ont participé à une guerre. Quelles images en gardent-ils ? Le cerveau est-il capable d'effacer tout ce qu'il ne veut pas revoir ? Il m'est arrivé de caresser l'idée d'être écrivain, d'inventer des histoires, d'être capable de créer avec des mots des images dans la tête des lecteurs. Mais que se passe-t-il quand on a des images en tête et qu'on veut les effacer ? Que fait-on ? On se jette contre un mur ? On se frappe la tête des deux mains comme faisait Vlado chaque fois qu'il parlait des visages qu'il ne voulait plus voir? Je ne sais pas. Moi, les images qui me font souffrir, j'ai toujours dû les inventer. Oncle Miguelito aussi. Mais ce qui est inventé n'est pas la même chose que ce qui est vu. C'est impossible. L'imagination est changeante. C'est son avantage. La réalité, c'est la putain de réalité. On ne peut pas rembobiner. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Carla Suarez, deux choses pour terminer. À la fois un extrait de votre roman, Le fils du héros, que vient de lire Romain de Becdelièvre, et puis la voix de Leonardo Padura, qui parle de la manière dont sa littérature s'inspire très fortement de l'histoire et de la réalité. Et dans le passage de votre roman, on entend le narrateur dire que la réalité, c'est la putain de réalité. Est-ce que là, il y a une forme, pas d'échec de la fiction, d'échec de l'écriture, mais quelque chose qui dit que l'écriture peut quelque chose, peut la traduction des images, mais ne peut pas complètement rendre ce qu'a été le vécu de la guerre.
Oui, parce que là, ces morceaux, je l'écris, je crois, à partir de quelque chose que m'a raconté quelqu'un, qui après je l'ai mis dans les romans, quelqu'un qui avait été dans les derniers combats, qui c'était très très fort. Et il me disait, tu sais, je me réveille encore la nuit en train d'écouter les avions et je perds encore. Ils se sont passés beaucoup d'années, mais je me réveille encore. Et alors, je me suis posé la question, voilà, parce que moi, j'écris, je fais la fiction, je connais pas la guerre. Et là, qu'est-ce qu'on fait vraiment comment est-ce que tu fais? Ce sont les conséquences de la guerre, ou de quelque chose de très fort qu'on a vécu. Comment est-ce que tu fais pour oublier ça, pour effacer ça? Tu peux faire n'importe, la mémoire, c'est ça qu'on a ici dans la tête, c'est quelque chose d'incroyable. Et parfois, il y a des choses qui font très mal. Et tu sais pas comment réagir ça, avec ça. Et on fait, les écrivains, on fait le contraire. On fait la reproduction. On essaye de reproduire la réalité et de te faire sentir au lecteur même des choses qu'on n'a pas senti vraiment dans notre peau. Mais il y a des gens qui ont senti des choses que après, ils peuvent pas réagir. C'est pour ça que je crois que, en fait, c'est parfois les écrivains ou les gens qui n'ont pas vécu vraiment les choses directement, peut-être capable de donner de meilleures façons parce qu'on a vraiment une petite distance. Parce que quand on est vraiment dedans la souffrance, c'est très, très difficile. Ou tu dois avoir beaucoup de distance temporelle, ou tu dois faire beaucoup de choses. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est une chose qui me frappe beaucoup quand je parle dans les romans des sujets très, très délicats. Et comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Et la littérature, pour moi, c'est importante parce qu'on peut essayer de faire une transfiguration et essayer de vivre ces moments pour donner à ces gens-là. Là, je suis contente qu'il y a des gens qui ont lu et m'ont dit, voilà, merci parce que moi, je pouvais pas dire les choses comme ça parce que je l'ai vécu. Et ça, c'est importante. Et voilà, c'est toujours la réalité, c'est toujours, jamais la fiction va supérer la réalité, c'est toujours la réalité.
C'est la putain de réalité.
C'est la putain de réalité.
Pour en revenir et pour peut-être conclure, Carla Suarez, lorsque vous disiez tout l'enjeu qu'il y a pour Cuba d'être à la fois en prise avec son passé, ne pas oublier, mais être vers l'avenir, qui est le dernier mot de votre roman, est-ce que la littérature peut être à cet endroit-là précisément ? C'est-à-dire peut-être autrement que le livre d'histoire et que les historiens proposaient d'être en tension entre les deux ?
Je crois mieux la littérature parce que la littérature, on va vraiment, les lecteurs vont s'attacher aux personnages et on va vivre et on va comprendre mieux les choses que les livres d'histoire sont de quelque chose, au moins qu'on est historien, bon, sinon c'est quelque chose de plus froid et c'est quelque chose de très, mais la littérature peut pas changer et le monde, mais peut changer les mentalités des gens et ce sont les gens qui changent le monde.
Parce que donc, par la puissance de la manière dont on s'identifie, par exemple.
Oui, je crois, parce que par exemple, la littérature à Cuba, qu'il y a beaucoup des écrivains de littérature différentes, dans différentes périodes aussi, c'est important. Et chacun essaye de raconter un moment donné. Et comme ça, on a un portrait plus complet de la réalité, parce qu'on vit normalement notre vie, notre petite vie. Mais avec les livres, on peut comprendre. Il y a des choses que j'ai compris, par exemple, de Cuba, que je n'ai pas vécu peut-être, mais je les lis dans les livres et je sais que ce sont des autres expériences. Et c'est ça qui est vraiment, c'est important. Et la littérature va récupérer les choses qui sont déjà oubliées, parce que combien, c'est mieux qu'être oublié. La littérature va récupérer et va toucher tout, surtout les points plus délicats et plus tragique de la réalité. Et ça, c'est important que la littérature fait ça. Il faut toucher toujours pour retourner les souvenirs, pour continuer.
Merci beaucoup, Carla Suarez. Votre livre s'appelle Le fils du héros et il est publié aux éditions Métayer.
Por tu senda de quimera, que yo voy.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire ?
Presque tout.
C'est bon signe ?
Oui, je crois. Pour moi, c'est important les sourires. Et je ris pour moi et pour d'autres gens qui ne peuvent pas rire.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus du tout rire ?
Plus du tout rire ? L'injustice. Oui.
Et par les temps qui courent, quel livre garder ouvert pour toujours ?
Moi, bon, j'ai une passion avec la Marelle de Julio Cortázar.
Donc celui-là, on ne le referme jamais ?
Moi, je le laisse toujours là.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h pour la diffusion d'un deuxième entretien depuis la fête du livre de Bron, cette fois avec Vincent Almendros. Je remercie beaucoup toutes les oreilles qui sont restées avec nous, extrêmement attentives et presque silencieuses. Au son, c'était Julien Bourdet, Sébastien Huel, Olivia Branger. Merci à Pascal Morel et Virginie Noël. À la réalisation, Lise-Marie Barré, Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
Y allí reinaste. Nunca me imaginé que así pagaras el tierno idilio que soñó mi alma. De aquel inmenso amor no quedó nada. Yo lo siento, lo maté.